on vous l'a dit, pourquoi je suis mauvaise en ce temps-ci ? Parce que ma langue ne réagit pas comme il faut, et donc mon élocution parfois est un peu trouble. Alors, je vous demanderai de me signaler si vous n'entendez pas, si vous ne comprenez pas ce que je dis. Je voudrais ajouter à ce que Bonnie Campbell a dit, vient de dire que nous apprécions beaucoup, beaucoup, au Best, le fait de pouvoir travailler avec ici une équipe de recherche de l'UQAM. Pourquoi ? Parce que ça oblige mes gars. Le bureau, c'est une dizaine de gars, tous congolais, qui sont au service de nos études et sont obligés par les courriers qu'on échange avec ici, avec l'UQAM, ils sont obligés d'être beaucoup plus attentifs aux détails. Vous savez qu'un Congolais, habituellement, n'est pas tellement attentif aux détails. Mais là, maintenant, nous sommes obligés d'être attentifs aux détails. Ça précise beaucoup la portée de notre recherche. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que donc, moi, je suis jésuite, donc je suis catholique 100%. Mais le bureau lui-même fut créé en 1988 par une section baptiste au Kivu. Et actuellement, nous recevons un petit financement de l'American Jewish World Service. Donc nous sommes vraiment écuméniques, quoi, disons. Alors, je voudrais maintenant commencer le sujet même de la conférence en vous disant ceci. L'article qui a été publié est évidemment intéressant, mais il remonte à quelques années. Nous avons rédigé ça en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. La situation sur place a changé depuis lors. Elle a changé dans deux sens surtout. Primo, le problème de la sécurité. Je crois que la zone de sécurité autour de Bukavu s'est considérablement élargie. À tel point que, par exemple, les centres de négoces qui ont été construits, les cinq centres de négoces qui ont été mis en place par la MONUSCO, donc les UN Peacekeeping Forces, ont perdu vraiment leur utilité et ne sont toujours pas en train de fonctionner. Parce que quoi ? Parce qu'ils étaient prévus pour pouvoir couper le lien entre l'extraction minière artisanale et le fait de to fuel the war, to fuel the malicious groups. Alors, depuis lors, ces endroits-là, donc il y avait une série d'actions de 25 km autour du centre de négoce. Depuis lors, cette sphère d'action est sécurisée parce que, bon, c'est l'évolution générale du pays, quoi. Ce qui fait que les gens qui étaient titulaires de permis d'exploitation dans ces zones-là sont maintenant revenus à la charge et interdisent à la MONUC d'ouvrir, à la MONUSCO, d'ouvrir leur centre de négoce. Un deuxième point que mes collègues, parce que nous étions trois à avoir contribué à cet article, à ce chapitre, un deuxième point que mes collègues ont souligné, c'est que, en fait, nous décrivons là-bas une manière un petit peu idéaliste de fonctionner dans les gisements miniers et dans les campements miniers. Depuis lors, on a poursuivi des enquêtes, on s'est rendu compte que il y a quand même assez bien de coups bas, assez bien de tricheries qui sont développées par les creuseurs eux-mêmes. La plupart du temps, les creuseurs sont plutôt victimes d'abus de pouvoir de la part des chefs de campement, des chefs de gisement, des chefs de tunnels ou de galeries, etc. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi, par exemple, des choses où, par exemple, un creuseur ou un groupe de creuseurs va trouver l'autorité du campement ou du gisement. Et en les corrompant, ils vont provoquer le fait qu'on va chasser ceux qui sont en train de découvrir une bonne provision de gisement. Ce qu'ils appellent un tambour. C'est le langage qu'ils emploient, le tambour. Donc, effectivement, ce chapitre est intéressant, mais ce chapitre est un petit peu vieux, disons. Pour nous qui sommes sur place et qui voyons le changement concret. Je dois souligner aussi qu'il y a un problème de maturation. Plusieurs fois, j'ai été contacté par des équipes de télévision du Canada. Vous voyez, le problème, c'est qu'ils ils reçoivent une nouvelle qui vraiment parle aux gens. Ils ont fait un reportage, le temps de monter le dossier, de trouver le financement pour pouvoir se rendre sur place avec une équipe de télévision, il y a plusieurs mois qui se passent. Et quand ils arrivent sur place, la situation a changé. C'est un phénomène de maturation normal, mais qui fait qu'ils se trouvent alors devant une situation qui est changée par rapport à leur position de départ. Ça, c'est quelque chose qui est très très fréquent, que nous avons souvent expérimenté. Surtout quand les gens viennent d'Amérique du Nord. Maintenant, quelle est notre position par rapport à la certification? Nous autres, nous disons, au BES, nous disons, il faut certifier le produit minéré. Pourquoi? Parce que le produit minéral, dans notre cas, c'est la cassitérite, les 3T. Cassitérite, tantale et tungstène. Le tungstène vient du wolfram, de la wolframite. Cassitérite donne le tin, l'étain, et le colombo-tantalite, qu'on appelle coltan, il faut arriver ensuite à le séparer du niobium, du colombium, pour arriver à faire le tantal. On parle de 3T. En général, on parle de 3T plus G, gold. Il se fait qu'il y a quelques années, j'ai eu un petit problème, parce que moi je suis jésuite, comme on vous l'a dit, et j'ai eu un petit problème avec la US Jesuit Conference à Washington. Parce qu'ils étaient en train de marcher à fond avec le groupe, le groupe de société civile, qu'on appelle le Enough Project. Enough Project était en train de. Avait poussé un paragraphe, qu'on appelle le paragraphe 1502, 1502, dans le Dodd-Frank Act. Dodd-Frank Act est une loi qui répond à une situation totalement différente. Mais ils ont profité du fait qu'ils avaient des contacts avec certains congressmen à Washington pour pousser ce 1502 et ce 1504. Le 1504 demande une publication, de publier ce qu'on fait, ce qu'on vend, etc. C'est le 1502 qui pose problème. Bon, il se fait que moi, au mois de mars, 2011, j'ai fait une lettre en anglais que j'ai envoyée en dehors du deadline, en dehors de la date butoir, que j'ai envoyée à la SEC à Kinshasa, à Washington, Security and Exchange Commission, c'est le gendarme de Wall Street. J'ai envoyé ça en dehors de délai, mais ils l'ont mis immédiatement sur leur site internet. Ils l'ont cité plusieurs fois d'ailleurs depuis lors. Que disait cette lettre? Cette lettre disait OK pour la certification. Mais seulement, il faut bien se rendre compte que ce que vous décidez là-bas, ça va se retourner contre les creuseurs. Quand on parle de creuseurs, ensuite, qui vous, on parle de quoi? On parle de 200 000 personnes, vous voyez. Environ, c'est estimé par la Banque mondiale. On ne sait pas, même l'État n'a aucun chiffre réel. Et ceux qui payent leur carte de creuseur sont un nombre minime par rapport à la totalité. Pour des raisons que je ne saurais pas vous expliquer maintenant ici, mais qui sont des raisons assez simples pour tout. Donc, ma lettre disait, attention, cette mesure parle d'une excellente intention, mais ça risque de se retourner contre les creuseurs que l'on veut protéger, et ça risque aussi de faire d'ouvrir le champ à certains barons mafieux. C'est le terme que j'avais employé dans la lettre. Effectivement, depuis lors, on s'est rendu compte que j'avais raison, que cette lettre avait raison. Et vous connaissez vraiment toutes les complications qui ont lieu maintenant, y compris récemment à Washington, quand le National Board of Manufacture, US, a tenté un procès pratiquement pour dénoncer la mesure prise par la Security and Exchange Commission. À ce moment-là, la US Jesuit Conference s'est rendu compte qu'il y avait un petit jésuite sur place, qui était moi donc, qui contestait leur position. Et ils étaient très embêtés. Donc j'ai reçu une communication par téléphone pour savoir ce qui se passait. Et au mois de juin 2011, je suis allé à Washington, moi-même j'étais invité là-bas. Et j'ai pu alors passer du temps, toute une journée,
à expliquer à la US Chamber of Conference quelle était ma position. Finalement, ils ont compris que, en fait, en matière industrielle, c'était surtout le Katanga avec lequel ils pouvaient travailler, en passant par le centre social des jésuites à Kinshasa, dirigé par un confrère qui s'appelle Ferdinand Mouigiroi, un jésuite congolais, et que pour la partie artisanale, ils allaient travailler avec moi. C'est ça qu'on a établi comme position à ce moment-là. Donc, notre position, elle est laquelle ? Notre position, c'est oui à la certification. Il faut, vous voyez, le minerai 3T NG and Gold est un minerai qui pose problème. C'est comme pour la viande bovine en Europe, par exemple. Une fois qu'un produit a posé un problème, il faut arriver à le tracer. Donc oui à la traçabilité, oui à la certification. Maintenant, le problème qui est là-bas, c'est que nous avons un millier de sites où l'on creuse, où l'on creusait, chez nous au sud Kivu. Mais seulement, il n'y a qu'un seul d'entre eux qui, jusqu'à présent, reçoit la certification par étiquetage. L'étiquetage est une méthode qui a été mise au point par ITRI. ITRI, c'est International Tin Research Institute à Londres, qui est en fait un syndicat, un regroupement de smelters, de fonderies. Les fonderies se trouvent généralement en Afrique, en Extrême-Orient. Il y a aussi des fonderies en Allemagne. Il y a aussi des fonderies aux États-Unis. Il y a aussi des fonderies en Chine et en Inde. Mais la plupart du temps, le matériel qui est produit, qui est extrait à Kinshasa, au Kivu, passe sur l'Extrême-Orient. Le problème, c'est que donc, il est évident que ITRI cherche essentiellement à favoriser les fonderies. ITRI n'est pas intéressé à favoriser les creuseurs. Or, mon problème, moi, c'est les creuseurs. Ce sont les gens que je vois réserver. En face de moi. Moi, je n'ai pas le contact avec les fonderies, mais j'ai le contact avec les creuseurs. À l'heure actuelle, ITRI est en train de développer un système sur plusieurs autres sites. Mais évidemment, le problème, c'est que beaucoup de ces sites sont en fait illégaux. Pourquoi ? Simplement parce que les creuseurs travaillent sur des endroits où ils n'ont pas le droit de travailler, en fait. Ils n'ont pas le titre. Le gouvernement a lancé un système pour rassembler les creuseurs dans des coopératives. Je crois que ce système, c'est en fait, le complet du gouvernement ne peut pas traiter avec 200 000 personnes individuellement en face de soi. Mais en regroupant les creuseurs, il peut arriver à avoir une série d'interfaces. À l'heure actuelle, il existe sur le papier une centaine de coopératives au sud Kivu, rien que pour le sud Kivu. La situation n'est pas claire, parce que beaucoup de ces coopératives ont été formées par des gens qui viennent de la ville et qui, en fait, sont des gens qui imposent, primo, une carte d'adhésion et, deuxièmement, ils prennent souvent 10% de la production qui est vendue, non. Ce ne sont pas des coopératives de production ni des coopératives de commercialisation. Sont des coopératives pour mettre l'argent dans la poche des dirigeants. Nous autres, nous voudrions arriver à pouvoir améliorer ça, mais c'est extrêmement difficile. Parce que vous avez affaire à des gens qui ont la convoitise de l'argent. Alors, à l'heure actuelle, nous avons eu des contacts avec ce groupe-là, sur place. Il y a un groupe canadien qui vient d'être acheté d'ailleurs par PricewaterhouseCoopers, qui s'appelle Geotraceability. Ce groupe, qui est ici au Québec d'ailleurs, avec un certain M. Gérald Beaulieu, que je vais contacter prochainement, ce groupe est en train de développer une méthode en posant des chips électroniques, donc des puces électroniques, sur les produits dans les sacs. Ceci a l'avantage que c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable que la méthode développée par ITRI. La méthode développée par ITRI est une méthode papier, avec beaucoup de transferts de renseignements sur des formulaires, de transferts sur Internet. etc., etc. Et donc, comme pour les copistes, les moines copistes du Moyen-Âge, vous avez multiplié la possibilité d'avoir des erreurs de copie. GeoTraceability, avec ce plus électronique, vous allez avoir un système tel que, à ce moment-là, quand ça passe à moins de 10 mètres de sensor, je sais pas comment on dit ça en français.
Une sonde.
Quand ça passe à moins de 10 mètres, à ce moment-là, c'est automatiquement enregistré. Et automatiquement, ça va dans le système. Ça peut être transmis par le téléphone cell phone. Je voulais maintenant vous montrer. Donc, le problème, c'est que GeoTraceability a introduit chez notre ministre national des Mines à Kinshasa, un Memorandum of Understanding qui attendait depuis un mois déjà, quand j'ai quitté Bukavu, qui attendait depuis un mois déjà la signature, obtenu la signature du ministre national des Mines. Il faut savoir que le ministre national des Mines est plus malheureusement quelqu'un qui fonctionne à coups d'enveloppe en dessous de la table. Par exemple, ITRI a ouvert un nouveau centre d'étiquetage à Roubaïa, au nord Kivu. Ce n'est pas dans le territoire de Walikale, c'est dans le territoire de Masisi. Parce que Walikale est très connu, c'est la mine de Bussi, etc. C'est la mine qui est surveillée par Global Witness, etc. Mais donc, GeoTraceability a introduit cette note de Memorandum of Understanding chez le ministre. Après un mois, il n'avait pas encore obtenu la signature. Tandis que lorsque ITRI a introduit son système de certification à Roubaïa, dans les 3 jours, il reçoit une autorisation, un agrément de la part du ministre. Tout ça, c'est louche. Maintenant, je vais vous montrer. Je vous ai dit jusqu'à présent que nous étions d'accord pour la certification, mais qu'il y avait un problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul endroit qui est certifié sur 1000 environ au sud de Kivu. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un morceau de petite vidéo de 2 minutes où j'ai parlé à des gens qui venaient des États-Unis. J'explique un peu la position que nous avons maintenant. Je crois que la raison principale, c'est la grande misère. La raison principale, c'est le manque de job, le manque de travail. C'est-à-dire, quand moi je suis arrivé ici en 85, il y avait 20 000 personnes qui travaillaient pour la Sominki. Il y avait des miniers qui travaillaient pour la Farmakina. La Farmakina avait des plantations à l'intérieur du pays, là où les gens habitent. Il y avait des dispensés, il y avait de l'argent qui arrivait chaque mois, etc. Il y avait la cimenterie de Katana qui fonctionnait. Il y avait la sucrerie de Kiliba qui fonctionnait. La sucrerie de Kiliba, en période de pointe, ça fait 5000 travailleurs. Tout ça, c'est disparu. Donc les gens, maintenant, crèvent de misère. En tout temps, la population a doublé. Il y a 30 ans, la population a doublé. Tous ces jeunes n'ont pas de travail. Et c'est pour ça que je dis, bon, ils ont pris des kalachnikovs, etc., jusqu'au jour où certains ont préféré jeter la kalachnikov et aller travailler dans les mines. Et moi, je dis, mais ces jeunes qui acceptent de bazarder, de jeter la kalachnikov, avec laquelle ils avaient les filles gratuites, l'argent gratuit, la bouffe gratuite, ces gens méritent une récompense. Et la récompense qu'on leur a donnée, c'est la Dodd-Frank. C'est ça le problème. Ils sont misérables et ils cherchent une solution. Je ne pense pas que les rebelles soient vraiment des gens mauvais. Si on pouvait leur trouver un bon boulot, ils accepteraient. Parce que ceux qui ont jeté la Kalachnikov pour entrer dans les galeries, les tunnels, les puits de minerais, sont des gens courageux.
Je vous ai introduit ici le fait que. Je vous ai introduit ici le fait que, en réalité, le BEST a
trois sections. Nous avons une section des mines, mais nous avons aussi une section qui est depuis plus longtemps, qui s'occupe des développements agricoles. Ce qui fait que, si vous avez bien suivi le message que j'ai passé là-bas dans la vidéo, nous avons maintenant un portefeuille important d'idées sur le développement dans la région du Grand Lac. Cette idée est une idée qui date d'il y a quelques années déjà. En janvier 2007, lorsqu'il y avait le grand forum mondial de la société civile à Nairobi, j'ai fait une communication à mes confrères les jésuites et j'ai expliqué là-dedans que vous le vouliez ou non, les produits minéraux du Congo, du Kivu en particulier, continueront à intéresser les pays voisins qui feront des pieds et des mains pour pouvoir avoir accès à ces produits, qu'on le veuille ou non. Et donc, je disais, ce qu'il faut envisager maintenant, c'est un développement en termes régionaux. Cette idée, il y a quelques personnes qui l'ont communiqué, comme par exemple le fait qu'un ancien professeur de l'UCB, l'Université catholique de Bukavu, qui autrefois était le directeur de l'OCC, l'Office congolais de contrôle, qui doit vérifier les pompes à essence et le poids et mesure, etc. Ce monsieur avait un jour fait une conférence dans une salle de l'école où je réside, et cette conférence se terminait en disant, écoutez, nos produits minerais, il faudrait arriver à pouvoir les développer pour la richesse du pays et des travailleurs, mais aussi pour pouvoir arriver à former un fonds de développement régional. Un peu ce même type que ce qu'on connaît dans l'Union européenne. L'Union européenne a développé des fonds, par exemple, pour développer le sud de l'Italie, le Mezzogiorno. Ce sont des fonds européens qui venaient d'Allemagne ou qui venaient d'ailleurs, qui ont servi à développer ces régions-là. Donc, l'idée qu'il proposait, c'était en fait de pouvoir arriver à faire un fonds qui puisse servir au développement régional en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Il faut savoir que le Rwanda, par exemple, est un pays qui a très très peu de ressources. Très très peu de ressources. Ils ont du café, ils ont du thé, mais comme ressources minières, pratiquement les ressources minières ne sont plus utilisables parce que, du point de vue industriel, elles sont devenues trop chères à exploiter. Et donc, les gens sont très actuellement, on pense, les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, déclarent que le Rwanda est en train de faire la fraude, de profiter de la fraude des produits congolais. On estime que 20 à 25% des produits qui sont étiquetés product of Rwanda, en fait, viennent du Congo. Et je crois que c'est tout à fait vrai. C'est ça qui est le problème, c'est que qu'on le veuille, moi j'ai mis ça en lingala, olinga, olingate, que tu le veuilles ou non, les pays voisins continueront à être très intéressés, ils ont la convoitise, eux sont mal lotis, ils voudraient bien pouvoir profiter de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut exploiter au Congo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la partie sud du Kivu, par exemple, nous sommes, nous autres, comme BEST, comme bureau d'études, nous sommes très informés sur ce qui se passe dans la partie sud de la province, du sud Kivu. Il y a 80 000 hectares, dont 12 000 hectares sont en périmètre irrigué pour la riziculture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire 12 000 hectares fois 5 tonnes de riz paddy par hectare environ, sans même mettre de engrais, mais en observant bien le calendrier agricole. Ça veut dire qu'il y a une région de 15 000 km², qui est la moitié de la Belgique, en disons à peu près, quoi. 15 000 km² en montagne, à plus de 1800 mètres d'altitude. Vous pouvez installer là-bas des éoliennes pour du courant électrique, parce qu'il y a des vents alizés permanents qui soufflent à plus de 6 mètres secondes, donc ils peuvent faire tourner les pales. Vous pouvez faire là-bas de la pomme de terre, vous pouvez faire de l'orge de brasserie, vous pouvez faire beaucoup de légumes, mais malheureusement ils n'ont pas, c'est un territoire très très enclavé dans lequel nous allons bientôt commencer à pouvoir aider et les agriculteurs et les éleveurs en construisant un bâtiment qui sera à leur service. Il y aura une pharmacie vétérinaire, il y aura aussi des ventes de semences et de semences sur les pommes de terre, etc. Donc nous sommes bien, nous sommes au best, nous sommes équipés justement pour pouvoir répondre à la question que je posais dans la petite vidéo là-bas. On doit pouvoir répondre à ce problème de misère par l'organisation des infrastructures de transport et par la production. Parce que produire, c'est très bien, mais si vous produisez et que vous n'avez pas de route et que le camion ne vient pas chercher votre production, à ce moment-là, vous découragez les gens. Et donc, il faut amener les semences, qui sont les semences améliorées. Parce que quelqu'un m'a un jour signalé un problème, c'est que l'alternative à l'agriculture n'est pas une vraie alternative à l'heure actuelle, étant donné que les pouvoirs germinatifs et génétiques des semences sont trop diminués. Alors, vous risquez de faire un travail monstre à la main sur une surface pour un très faible rendement. Ça décourage les gens. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens au Kivu sont tellement fâchés contre le Rwanda qu'ils ne veulent pas collaborer avec le Rwanda. Or, c'est la seule voie de sortie, à mon avis. C'est collaborer avec le Rwanda. Une organisation comme Enough Project, avec laquelle nous nous sommes longtemps disputés, a changé tout à fait son fusil d'épaule. Et maintenant, ils ont pris une voie qui consiste à parler de développement régional. Ils ont pris un exemple, par exemple, dans un des documents qu'ils ont fait avec Singapour et la Malaisie. Les institutions se sont installées à Singapour, qui est indépendante de la Malaisie, mais les activités sont placées en Malaisie. Ce qui fait que là, il y a un système win-win. Chacun gagne dans le système. Je pense que le Rwanda voudrait aussi actuellement être considéré comme un petit peu une centrale de service par rapport au Kivu. Service de transport aérien, service d'assurance, service bancaire, etc. Et je crois que ça, c'est une bonne voie, effectivement, qui peut nous rendre service. Il faudrait rentrer dans l'explication supplémentaire, mais je crois que là, on a quand même une bonne voie. Le Rwanda peut effectivement être développé grâce au Kivu. Il y a toutes sortes de raisons qui militent pour cela. Mais il faut à ce moment-là que les gens au Kivu puissent accepter de travailler effectivement avec le Rwanda. Or, le Rwanda, à l'heure actuelle, a un pouvoir qui est dirigé par les Tutsis et qui sont très méprisants pour les Congolais. Il faut dire que les Congolais ne sont pas toujours très attentifs à leurs possibilités, effectivement. On organise une réunion pour Magisigne, la CEPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Il y a le Rwanda, le Burundi, la RDC. On organise une réunion là-bas. La section du Congo vient sur place, mais ils font les magasins pour aller acheter des affaires pour leur famille, plutôt que de pouvoir effectivement participer aux réunions de discussion. Ça, c'est un peu le problème du Congo. Les gens sont trop axés sur le privé et pas assez sur le public. Il faut savoir aussi que récemment, le commissaire européen au développement est passé au Kivu avec le ministre belge de la coopération. Et ensemble, ils ont proposé de mettre environ 150 millions d'euros. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça fait 180 millions de dollars, quelque chose comme ça, ou 200 millions de dollars. Ils ont proposé de pouvoir mettre ça à disposition localement du développement. Nous voudrions bien, en tant que best, entrer dans cette perspective-là. Mais il faut savoir que faire un dossier de la coopération européenne est extrêmement ardu. Il faut avoir une personne qui va travailler là-dessus pendant des mois et des mois. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'il faut mettre au point. Je crois que je peux m'arrêter là, en fait. Je ne sais pas depuis combien de temps je pars. Mais j'ai essayé de vous tracer devant vos yeux, de tracer la position et l'évolution de la situation. Bien sûr, vous avez beaucoup de questions en vous auxquelles je pourrais répondre tout à l'heure. Je vous laisse maintenant à Denis.
Merci, Didier Pailly, pour cette intervention.